Bonjour, vous écoutez l'épisode 58 du podcast Les Petits Plus Zen. Je suis Séverine Feiss, je suis accompagnante à la parentalité après avoir été pendant 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Et aujourd'hui, on va parler de motricité globale. La motricité, c'est tout ce qui se rapporte au sport, aux efforts, aux mouvements du corps. Donc il y a une notion de muscle en action, il y a une notion de schéma corporel. Donc quand on parle de schéma corporel, c'est ce que l'enfant conçoit de l'agencement de son corps. Donc comment bougent ses bras, comment bougent ses jambes, comment bouge sa tête. Au début, il n'en est pas du tout conscient. C'est avec le fil des années qu'il va pouvoir comprendre comment ça marche dans son corps et pouvoir coordonner et mobiliser tous ses membres de manière intentionnelle. Au tout début, quand vous avez votre tout petit bébé à la maison, il a très peu connaissance de l'articulation de son propre corps. Des fois, quand il fait bouger son pied, il se dit « Tiens, c'est quoi ça ? C'est un truc qui bouge. » Mais il ne sait pas encore que c'est vraiment de lui que ça vient. Et ce qu'on va construire en fait à l'école et dans la famille, c'est le rendre conscient de ses propres connaissances de lui et de ses propres progrès en motricité, en mobilité aussi de son corps, qui va être capable d'intentionnellement bouger une partie de son corps en se connaissant mieux et de mettre à jour ses fonctions motrices. Donc tout ce terme, ce lexique, il tourne autour du mouvement. Motricité, moteur, mobilité, tout ça c'est l'action du corps dans l'air, dans l'espace. Et quand on est enseignante, on a toute une partie se mouvoir dans l'espace, dans le corps, avec du petit matériel ou sans petit matériel. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, je trouve, dès la maternité, d'expliquer aux parents très tôt à quel point rendre l'enfant conscient de son propre corps, lui donner des clés pour voir comment ça marche, pour être allongé, s'asseoir, jouer à quatre pattes, marcher, se tenir, jouer avec son équilibre, va le rendre confiant, va travailler son estime de lui. Et il y a notamment tout le métier des psychomotriciens qui a été beaucoup plus mis en lumière depuis quelques années, qui font un travail formidable pour accompagner les parents à renforcer ces coordinations motrices des jeunes enfants, puisque ça va leur permettre ensuite de comprendre aussi des notions plus abstraites, plus intellectuelles et donc plus scolaires. Il y a beaucoup d'apprentissages en classe qui vont passer par le sensoriel. Je vous en parlais dans l'épisode 43 sur comment apprend l'enfant. Donc la première étape de découverte du monde, ça va être par les cinq sens, donc ce qui va toucher, ce qu'il va pouvoir sentir, ce sur lequel il va pouvoir monter parfois, monter sur un coussin, monter sur un oreiller, monter sur une poutre. Ça ne va pas être les mêmes ressentis, ça ne va pas être les mêmes résultats. Donc il va y avoir aussi la notion d'effort, d'aller plus loin, de rester concentré sur la tâche. Suivant les activités qu'on va lui proposer en motricité, ça va être plus ou moins difficile. Il va parfois y avoir besoin d'observer comment fait le copain pour réussir, comment passer de l'autre côté de l'obstacle. Donc il va y avoir plusieurs compétences entre ce que je comprends de mon corps, ce que je peux essayer de faire à mon corps et ce que je ressens quand mon corps parvient à traverser l'obstacle, par exemple un petit pont en bois, d'aller de l'autre côté du petit pont. Ça veut dire que j'ai mobilisé et j'ai coordonné tous les membres de mon corps pour passer de l'autre côté. Je suis en réussite, je suis en confiance de moi et je nourris ma rayure d'identité et de performance. Donc ces notions-là, elles vont s'installer dans la famille en premier. Et puis nous, quand on accueille les enfants à l'école, on voit une grande diversité. Donc que ce soit dans le dispositif, ils avaient 2 ans, ou alors les classes plus classiques de petites sections où les enfants ont 3 ans, il y a déjà une grande diversité par rapport à la connaissance de leur propre corps. Donc sur les mots techniques de conscientisation du corps, je vais vous renvoyer à l'épisode 20 que j'avais beaucoup détaillé sur nommer les parties du corps, lui dire à quoi ça sert au niveau scientifique et biologique. Par exemple, comment on fait pour marcher, on pose le pied, on avance. Comment on fait pour respirer, à quoi ça sert. Donc toutes les notions autour du corps, j'en avais beaucoup parlé dans l'épisode 20. Donc là, je vais plus détailler sur la question de la motricité globale. Mais la biologie et la connaissance de la physiologie, en fait, va aider certains enfants à mieux comprendre pourquoi ça ne marche pas. Par exemple, l'enfant qui veut la première fois sauter, il ne va pas forcément plier les genoux. Donc, on va pouvoir lui expliquer qu'en pliant les genoux, bah, ça peut être plus facile de sauter par-dessus la petite latte en plastique qu'on a posée au sol. Donc, ces éléments-là de physiologie, de détails corporels, de détails vraiment observables de l'extérieur, quand il va regarder un enfant de la classe en train de faire l'activité motrice, il va se dire, tiens, lui, il a réussi à sauter dans le cerceau, il a plié les genoux, il a pris appui, et ensuite, il a sauté dans le cerceau. Donc, il y a une question sensorielle d'observation, et ensuite, il va se mettre en route intérieurement en disant, j'ai envie de le faire, je veux essayer de le faire, comment je dis à mon corps, comment je télécommande mon corps pour que mon corps essaye aussi de le faire. Donc, par observation, par imitation, par neurone miroir, bien entendu, et c'est quelque chose qui va durer de ses 0 à ses 10 ans. On considère que la coordination motrice est à peu près stable et établie et vraiment aboutie à l'âge de 10 ans seulement. Ça, c'est toujours très difficile de lancer un objet, d'attraper un objet, quand on n'a pas pratiqué, quand on n'a pas fait des ateliers vraiment précisément ciblés sur ces compétences-là. Et quand on devient enseignant, on a des livres entiers qui parlent de ces sujets-là sur la motricité. Donc, il y a toutes des progressions autour de lancer, recevoir. Il y a toutes des progressions autour de grimper, de sauter, de ramper. Donc, ces parcours que vous voyez en motricité, si vous allez dans l'école de vos enfants, il y a souvent une salle qui est dédiée à ça, où on met des parcours moteurs avec des cages, des échelles, des plots à enjamber, des trampolines, des tapis en mousse pour rouler, pour faire des roulades. Donc, ces parcours qu'on appelle des parcours de motricité cherchent à challenger les compétences motrices des enfants. Donc, de 2 à 6 ans, on fait évoluer le parcours. On rajoute une hauteur ou on rajoute une distance pour que chaque enfant puisse aller un tout petit peu plus loin de la zone de confort initiale, aille se défier un tout petit peu plus. Et vous voyez que là, on est sur la rayure de détente, on est sur la rayure PARM, parce que ça les stimule beaucoup, en fait, de voir à quel point ils peuvent dépasser leurs propres limites. En maternelle, ils sont encore beaucoup dans la découverte et dans la joie primaire de « Ouah, j'ai réussi, j'ai sauté, j'ai lancé, j'ai rattrapé ». Ils sont complètement dans l'instant présent, ils sont très joyeux d'accomplir, de réussir une performance motrice. Donc, n'hésitez pas à valoriser chaque nouvelle acquisition. Par exemple, la première fois qu'ils montent sur une échelle, la première fois qu'ils sautent dans un cerceau, de lui dire « Mais avant, tu ne savais pas faire ça. Waouh, tu as réussi. Comment tu as fait? Raconte-moi comment a fait ton corps pour réussir ce moment-là. » Plus ils vont en prendre conscience et plus ça va donner du carburant émotionnel aussi pour passer à l'action motrice suivante. Au début, sur le sensoriel, on est sur des petits parcours où il n'y a pas de danger, où il n'y a pas de hauteur. On est vraiment dans du plaisir de toucher le tapis, de s'asseoir sur le tapis, de ramper à quatre pattes, de toucher des foulards. Donc, on est dans une dimension très personnelle. Chaque enfant a son foulard, chaque enfant a son ballon, chaque enfant s'approprie les morceaux du parcours et comprend les matières, les propriétés, si je le lance, comment ça fait, est-ce que je peux le faire rouler, est-ce que je peux le mettre sur mon épaule, est-ce que je peux le prêter à quelqu'un. Donc, il va s'approprier ses premiers gestes. Et aussi, à l'école, on a une autre partie qui est plus dans le sans matériel, où on travaille le schéma corporel. Par exemple, on va tourner sur nous-mêmes, on va mettre de la musique pour voir quel mouvement faire sur une musique. On va prendre des mouvements de plus en plus amples, on va tourner, on va faire mouliner les bras, on va peut-être faire un petit jeu autour de la topologie, donc se repérer dans l'espace avec lever les mains tous en l'air, mettre les mains tous au sol, des zones qui vont pouvoir coordonner les connaissances de l'enfant entre ce que fait son corps et sa position dans l'espace. Donc c'est une notion aussi importante, c'est qu'on a beau connaître ce que fait notre corps en temps réel, on ne sait pas toujours bien le localiser, on ne sait pas toujours bien dans quel ordre il fonctionne, et ça va nous permettre en séance de motricité de latéraliser, donc de dire à l'enfant « là c'est à gauche, là c'est à droite », on part en avant, on part en arrière, on avance ou on recule. Donc toute cette séance de motricité va lui permettre de mettre des informations sensorielles, comment il sent son corps quand il fait l'action, et aussi intellectuelles, donc des compétences scolaires sur les mots attribués au mouvement en avant, en arrière, à gauche, à droite. Un des classiques de maternelle, c'est de faire la chanson de la fermière qui va au marché, qui porte sur sa tête des pommes dans un panier. Il y a 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté. En faisant l'action, en chantant l'action, hein, il y a aussi un épisode sur les comptines où je parle de ça, en faisant l'action, en chantant l'action et en le ressentant, il met dans sa base de données du lexique, du vocabulaire qui correspond à ce qu'il fait en réalité, en 3D, dans la vraie vie, dans la salle de danse en l'occurrence. Donc il fait des ponts entre ses connaissances sensorielles et ses connaissances intellectuelles. Et puis, au niveau de ses connaissances intellectuelles, quand il aura bien fait les mouvements dans l'espace, on pourra retravailler ensuite en classe avec des photos. Par exemple, lui redonner des photos de ce qui s'est passé pendant la séance de motricité. Et lui, il va réexpliquer comment il a passé l'échelle entre les deux cages, comment il a lancé le ballon dans le carton. Donc de poser des mots qui développent le lexique, qui développent le langage, qui développent la structure de l'argumentation. On en parlait un peu sur l'atelier philosophique de la semaine dernière. Donc plus l'enfant va l'avoir vécu dans son corps, plus il l'aura compris sensoriellement, plus il aura eu les mots en parallèle de son action motrice, et plus il pourra les redonner, les réexprimer en temps décalé, en temps différé. Ça veut dire que là, il n'est pas en train de lancer le ballon. Mais si on lui demande, si tu voulais expliquer à ta petite sœur comment on fait pour lancer un ballon, bah, il dirait, je prends le ballon dans mes deux mains, je plie les coudes, je regarde le carton, je pousse mes mains en avant et je lâche la balle pour que la balle aille dans le carton. Et tout ça, c'est une sorte de tutoriel, en fait, intellectuel, que comme il l'a beaucoup vécu dans son corps, comme il a beaucoup fait l'action lui-même, il va être capable de l'encoder personnellement et ensuite de l'exprimer avec ses propres mots pour le transmettre. Et c'est en ça que les séances de motricité en maternelle, elles sont très très importantes. Tous les collègues de maternelle utilisent les séances de motricité pour apporter des notions difficiles, pour apporter des notions compliquées, parce que le passage par le corps permet d'activer tous les canaux en fait, d'intelligence multiple. Les gens qui sont très kinesthésiques, qui apprennent par le toucher, qui apprennent par les 5 sens. Il y a des gens qui travaillent à l'audio, donc le bruit du ballon, le bruit du foulard, le bruit du papier froissé en motricité, quand on joue avec du matériel. Tout ça, ce sont des informations que les enfants rangent dans leur base de données et qui leur permettent après de passer sur des choses un peu plus subjectives, un peu plus abstraites quand ils reviennent en classe et qu'ils doivent coller les éléments du parcours de motricité dans le sens de l'espace qui était là-bas, donc un travail de topologie, de repérage dans l'espace, et ben il peut passer plus facilement à un support abstrait, un support physique, s'il l'a vécu de nombreuses fois en motricité. Et c'est quelque chose qu'on utilise notamment beaucoup en graphisme, quand on travaille les boucles, donc les boucles du L en écriture cursive, je vais y arriver. Donc quand on fait la boucle du L en écriture cursive, eh ben on travaille très souvent avec les cordes en motricité. Donc l'enfant va déjà pratiquer sa gestuelle avec une corde en la posant sur le sol et en lui faisant suivre un chemin. Donc une fois de plus, on est dans le lieu, dans l'espace. Et quand il arrive à le faire avec le matériel de motricité, une fois arrivé dans la classe, il pourra le faire au tableau avec une craie, donc en grand format, et plus tard il pourra le faire avec un gros feutre sur une grande feuille, au tableau de peinture par exemple, et ensuite seulement il arrivera à le tracer sur une ligne, plus tard au CP, entre 2 interlignes. Mais cette motricité globale, elle va servir à tous les apprentissages du jeune élève et enfant, parce que c'est pareil si vous faites l'instruction en famille, de partir des gestes du corps avant même de vouloir le faire en petit format et sur papier. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de compétences qu'on fait comme ça en tranches de progression dans l'école maternelle, que vous allez pouvoir faire aussi à la maison, de partir de ce que l'enfant exprime avec son corps pour le raccrocher à une notion qu'il a déjà entendue sur un autre domaine, ou alors une notion nouvelle qu'il va découvrir de par sa sensorialité, de par son corps à lui. Et puis, il y a tout ce retour au calme aussi qui est important en maternelle. Donc, les séances où on met une musique calme et où on fait respirer les enfants, prendre conscience des muscles. Là, quand on a beaucoup sauté, on a le corps qui est fatigué, peut-être qu'on transpire, peut-être qu'on a le cœur qui bat plus vite, on est essoufflé. Donc, faire prendre conscience aussi des effets du corps sur notre vie intérieure. Ça nous a fatigués, on a besoin d'aller manger, on a besoin de s'hydrater, on a besoin de se reposer. Donc faire des ponts entre ce qui vit dans son corps en motricité globale pour aller ensuite vers de la motricité fine comme le découpage, l'écriture ou alors une conscientisation de ce qui vit mon corps, mes émotions, mes ressentis et puis mes besoins éventuellement physiologiques après une séance de motricité. Donc nous, en maternelle, on utilise vraiment la motricité comme une source de travail autour du vocabulaire, de topologie. On travaille aussi les itinéraires, donc aller en avant, en arrière, avec des objets, avec des doudous, avec d'autres enfants, de parcourir, de faire du parcours aussi en orientation, de travailler la 3D, ce qu'on voit au sol et ce qu'on voit sur la feuille, c'est différent. On travaille aussi en athlétisme, aussi en extérieur. Dans la ville où je travaillais, il y avait des réunions entre écoles sur le stade pour des petits jeux athlétiques, pour des courses aussi d'endurance. Donc c'est toujours des moments assez festifs pour les enfants parce qu'il y a cette émulation de la compétition sportive, hein, un peu comme leurs idoles de champions de foot ou de champions olympiques. Ils se sentent accompli, puissant, parce que par leur corps, ils voient qu'il y a une notion de réussite, de performance. Donc surtout, profitons des élans de nos enfants à vouloir participer à des choses et des activités motrices, parce que ça donne une grande estime de soi et une grande confiance en soi. Parce que avant, on est un petit peu gauche, on est un petit peu dans le flou artistique, et plus on s'entraîne, et plus on sent la performance du corps s'affiner, la réussite s'installer, et on se sent assez puissant de se dire « mais avant je n'y arrivais pas, et maintenant j'arrive à faire ce mouvement, j'arrive à lancer plus loin, j'arrive à sauter plus loin, j'arrive à grimper plus loin ». Donc c'est toujours une occasion de faire de la réussite progressive de l'enfant en disant « ah, la semaine dernière, tu avais lancé ta balle dans le panier, mais tu n'avais réussi que 3 fois. Et là, cette semaine, tu as réussi 8 fois. Donc, ton geste, il est plus précis. Ton œil, il a mieux calculé. Donc, de le mettre dans une sensation de valorisation de ses efforts, de ses compétences qui le rassurent et qui lui permet de se sentir confiant intérieurement. Il y a aussi en motricité en maternelle les jeux autour des agrès. Donc, jouer avec son équilibre. Jouer en collectif, donc se passer un ballon, coopérer, faire un tir à la corde. Et il y a aussi le domaine, donc plus pour les grandes sections, de travailler sa motricité dans un milieu instable, dans un milieu nouveau, inconnu. Donc ça peut être du roller, ça peut être aller à la piscine. Ça veut dire que là, on plonge le corps dans un élément inconnu qui nous défie encore plus de mettre à jour nos connaissances de coordination. Un enfant qui va pour la première fois à la piscine en grande section peut avoir une révélation de la puissance de son corps qui arrive à avancer dans l'eau. Et puis pour d'autres, c'est très difficile de se dire « je suis déjà pas à l'aise sur la terre ferme, vous voulez me mettre dans l'eau, je ne comprends pas comment fonctionne l'eau ». Pour certains, aller à la piscine, c'est très inconfortable au niveau émotionnel. Ça renvoie des peurs de ne pas savoir, de ne pas pouvoir, de ne pas comprendre, de ne pas connaître. Donc c'est un des objectifs de la maternelle, de donner confiance aux enfants dans leur propre capacité motrice pour qu'ils puissent avoir aussi suffisamment confiance dans les passerelles avec les compétences scolaires. Plus l'enfant se sent rassuré physiquement parce qu'il réussit, et plus il osera peut-être en mathématiques, en lecture, en sciences, en histoire-géographie, essayer en se disant « j'essaye et je verrai et je réessaierai si je me trompe. C'est un bon bagage de passer par le physique, et on peut même prendre l'exemple très, très pragmatique du avant, quand tu as commencé à marcher, tu n'y arrivais pas très bien. Tu tombais régulièrement. Au début, quand tu essayais de faire du patin à roulettes dans l'allée, tu n'y arrivais pas très bien. Et maintenant, tu y arrives. Et puis pour certains exemples aussi, notamment les écoles qui sont en haute montagne ou qui sont près des massifs neigeux, il y a aussi ce travail dans un milieu inconnu comme la neige. Il y a des écoles qui font régulièrement un cycle ski ou un cycle luge, et parce qu'ils ont les conditions optimales au niveau local et au niveau géographique. Ça peut être aussi escalade, hein, pour un lieu où il y a un grand mur d'escalade. L'idée, c'est de confronter, en quelque sorte, l'enfant à de nouvelles possibilités raisonnables. Lui montrer qu'il peut à chaque fois se dépasser, il peut à chaque fois essayer une nouvelle chose sans que ça remette en cause qui il est, ce qu'il a déjà réussi, ce qu'il a encore à réussir. C'est des points d'étape à chaque fois de se dire « Ah oui, bah écoute, aujourd'hui, t'as été plus vite que la semaine dernière, on peut quand même célébrer ça, ou alors t'étais peut-être plus fatigué, donc t'as pas été plus vite, mais la prochaine fois, ça ira mieux. » Donc on peut travailler le côté régularité, on peut travailler aussi le côté impermanence, il y a des performances qui sont pas forcément mieux que la semaine dernière, il y a aussi des coopérations qui se coordonnent, par exemple qu'il y a des binômes en sport collectif qui marchent mieux que d'autres, pour se lancer la balle au basket ou pour tenir la main quand on est en train de passer sur la poutre, ben, il y a des binômes qui sont plus solides que d'autres, parce que des fois on demande à des enfants d'être là en relais pour donner la main, notamment sur la poutre, et ben c'est difficile d'avancer avec quelqu'un qui nous tire le bras. Donc on apprend toujours à chaque séance de motricité, on apprend beaucoup sur notre façon d'apprendre et on apprend aussi sur notre façon de réagir face à l'échec, face à la motivation, face à la réussite et face à l'interaction aussi avec les élèves de la classe, parce que des fois on veut passer tous au même atelier, donc il y a un peu d'attente, hein, on en parlait sur l'atelier philosophique, mais l'attente pour un enfant, bah, c'est une compétence en soi, c'est une compétence transversale. S'ils sont 8 à vouloir faire le trampoline, bah, à un moment, il va falloir réguler l'attente pour que celui qui est sur le trampoline finisse par laisser la place. Donc, en activité de motricité, c'est l'occasion de parler aussi des règles, de parler d'égalité, de parler de priorité, de parler de verbalisation aussi, de ce qu'on ressent, en disant bah, « lui, il est resté sur le trampoline, moi je voulais en faire, maintenant j'ai plus le temps, je suis triste ». Donc il y a toujours de très grandes occasions de travailler la compétence motrice, puisque c'est l'objectif numéro un. Mais vous voyez qu'en salle de motricité et en motricité globale, on peut aussi faire des ponts avec le ressenti, avec les émotions des enfants, avec la coopération au sein d'un groupe, puisque bien souvent, quand on fait du sport, ça ne concerne pas que nous, il y a aussi une équipe, il y a parfois une notion collective de réussite, ça veut dire on perd ensemble ou on gagne ensemble. Donc toutes ces notions-là, on peut leur faire comprendre dès la maternelle à quel point il y a des conséquences, des enjeux, non pas pour leur mettre une pression, mais pour les ouvrir un peu, les décentrer vers ce qui se passe dans la tête de l'autre enfant, dans la tête du partenaire, dans la tête de l'équipe opposée, l'équipe adverse. Donc la petite difficulté avec tout ce que je vous ai présenté, c'est la posture de l'adulte qui a bien évolué au cours des 20 ans d'enseignement. Au début, quand j'ai commencé en maternelle, on était plutôt sur l'installation d'un parcours et puis les enfants faisaient quasiment dans le même ordre le parcours. C'était assez cadencé, c'était assez descendant. Il y avait une entrée du parcours, c'était une façon de faire. Et puis avec les années, et les mamans qui ont eu plusieurs enfants et qui sont venues aux dernières portes ouvertes m'ont partagé ça aussi la dernière année du dispositif en disant « Mais ça a complètement changé vos manières de faire de la motricité. » Et je dis « En effet, maintenant, on est plus dans des parcours évolutifs où il y a plusieurs entrées, plusieurs possibilités de l'appréhender. Et chaque enfant a son propre défi et projet personnel. » En disant, il y a des enfants qui vont passer beaucoup de temps sur la cage à grimper. Il y a des enfants qui vont passer beaucoup de temps à faire la roulade ou à lancer. Donc, suivant les éléments qu'on va mettre dans la salle de motricité, on ne va pas induire qu'il y a une seule façon de faire et qu'il y a une seule façon de réussir. et ça permet la diversité et l'altérité de chaque élève, puisqu'il y a des enfants qui sont très bien coordonnés dès leurs 3 ans, et puis pour certains élèves, même à 5 ans, c'est encore difficile d'alterner les marches dans l'escalier, c'est encore difficile de lancer avec une seule main. Donc la maturité motrice et la maturité de réflexion sur son propre corps n'est pas du tout linéaire, quel que soit l'âge de l'enfant en maternelle. On peut très bien mettre dans la même salle, c'est déjà arrivé quand on avait des collègues absentes, sur un même parcours, on peut mettre un enfant de 3 ans et un enfant de 5 ans, et sur le même parcours, il va pouvoir travailler des compétences différentes, en faisant peut-être un saut plus haut ou en faisant un lancer peut-être plus loin. On va moduler en fonction du parcours du jour, en fonction du matériel qui est installé, les objectifs et les compétences pour que chacun puisse s'approprier le défi du jour, l'objectif du jour ou l'intention pédagogique ou didactique du jour. Ça stimule bien sûr beaucoup les apprentissages, les fonctions exécutives, mais on va travailler pour certains enfants aussi la prise de risque. Il y a des enfants qui ont très très peur d'essayer. Parfois, en septembre, la salle de motricité peut faire peur à certains enfants parce qu'ils n'ont pas cette autonomie physique et corporelle d'aller dans un nouveau parc et de se lancer tout de suite sur une nouvelle échelle, un nouveau toboggan. Et on voit que c'est quelque chose déjà à détricoter, l'envie d'essayer quelque chose de nouveau, l'envie de toucher un nouveau matériel. Donc ça peut se travailler vraiment en amont, dans la famille. Quand vous allez dans un nouveau lieu, dans un nouveau village, dans une nouvelle séance de vacances, est-ce que l'enfant spontanément va aller vers du nouveau matériel pour se tester ? Ce toboggan-là, il est peut-être très haut. Est-ce qu'il veut quand même essayer ce trampoline-là, cette échelle de corde, cette araignée en corde, suivant le lieu où vous habitez ? Est-ce qu'au niveau moteur, l'enfant, ça lui donne envie d'escalader, d'expérimenter et de découvrir. Ça, c'est une compétence qui est importante après pour rentrer en classe, parce que si l'enfant a déjà peur d'essayer, si on lui a peut-être un peu beaucoup répété « tu vas pas y arriver, c'est pas pour toi, t'es trop petit, non, tu vas tomber », ces éléments-là, ils peuvent rester très longtemps accrochés à sa manière d'apprendre, parce qu'il va les réentendre dès qu'on va lui proposer un parcours. Il va se dire « Ah, mais je ne sais pas faire, c'est trop dur pour moi, non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas rater, en plus je vais tomber. » Donc les petites phrases qu'on dit à notre enfant très jeune, quand il a entre 1 et 3 ans, ces petites phrases-là, on peut essayer d'y être attentif, parce que si on lui répète trop souvent « Tu ne vas pas y arriver, c'est trop dur pour toi, tu vas tomber », ça lui donnera beaucoup moins confiance en lui, pour tester de lui-même une sorte de motricité autonome. Il y a un grand courant là qui s'appelle la motricité libre à la maison, vous en avez peut-être entendu, c'est l'idée qu'on n'a pas besoin de support vraiment extraordinaire pour développer la motricité de l'enfant en famille. Donc il n'y a pas besoin de transat, il n'y a pas besoin de trotteur, il n'y a pas besoin de support de marche, l'enfant va de lui-même, par la maturation de son corps, par la maturité de ses muscles, commencer à se retourner sur son tapis, commencer à rassembler les genoux pour marcher à quatre pattes, un jour prendre appui sur un support et essayer de se mettre debout. Le corps est programmé de manière biologique, naturelle, pour se développer quoi qu'il arrive. Donc à part gros troubles à la naissance ou malformation ou maladies incroyablement liées au système musculaire, la plupart des enfants vont, entre leurs 6 mois et leurs 3 ans, passer par ces étapes, pas forcément dans le même ordre d'ailleurs, de se mettre assis, se mettre à genoux, se retourner, prendre appui, essayer de se mettre debout, faire les premiers pas, essayer de courir, essayer de lancer. Ce sont des étapes qui vont arriver quoi qu'il arrive. C'est programmé dans leur carte mémoire pour arriver. Et nous, on peut être là en support, en soutien et en favorisant leurs essais de manière tout à fait sécurisée. Ça veut dire que c'est plus l'aménagement de la maison qui va jouer, hein, mettre des supports qui tiennent bien, parce que si la table basse, elle glisse sur le sol, Quand l'enfant il va s'appuyer sur la table basse, bah, il n'aura pas trop le recul nécessaire pour être sécurisé, parce qu'elle va bouger avec lui. Donc vérifiez à hauteur d'enfant qui va pouvoir faire ses premières expériences motrices en confiance à la maison, et ensuite au parc, bah, voir avec lui ce qu'il a envie d'essayer. Peut-être qu'il va juste regarder les autres en train d'agir, peut-être qu'il va vouloir monter sur cette marche qui est un peu haute. L'idée de vouloir essayer est toujours à savourer et à valoriser, parce qu'on attend d'eux un appétit et une curiosité à essayer. Et ce qu'on peut ensuite verbaliser, c'est « Ah, cette échelle, elle est un petit peu haute pour ton pied. Quand ta jambe, elle va grandir, tu pourras essayer cette échelle. Mais en attendant, on va plutôt essayer de ce côté-là. Regarde, l'échelle est plus basse. » Donc, on peut rediriger l'énergie et l'envie de grimper partout de notre enfant en allant au parc, en allant dans un lieu approprié, parce que c'est tout à fait naturel. Il y a des mamans qui me disaient en entretien « Mais mon enfant, il saute partout, il court partout dans la maison, il lance des trucs. » J'ai dit, bah oui, c'est un besoin complètement physiologique. L'enfant, il a besoin de mouvement sur sa rayure rouge, il a besoin de se challenger sur sa rayure jaune, il a besoin d'explorer son corps et ses sensations sur la rayure verte. Et tout ça, c'est complètement naturel. Donc si on mettait un enfant 2 jours de suite à la maison sans qu'il puisse monter, grimper, sortir, lancer des choses, ben, au niveau des besoins physiologiques, il ne serait pas satisfait. C'est pour ça qu'aller au parc tous les jours, c'est une grande richesse pour l'enfant. C'est pas une grande richesse pour nous parce qu'on passe pas notre meilleure vie à rester au parc, à surveiller nos enfants. Mais on peut éventuellement s'emmener un petit podcast ou s'emmener un livre s'il y a d'autres adultes qui coordonnent aussi la surveillance des enfants pour que l'enfant puisse exprimer ses besoins moteurs, ses besoins de mouvement. C'est fondamental pour lui d'apprendre en essayant, d'apprendre en faisant et voire d'apprendre en tombant. Je vous invite aussi à réfléchir à la place de la chute dans l'apprentissage moteur. C'est en tombant, c'est en regardant les conséquences de ses gestes, de ses actes, qu'il va ajuster, qu'il va coordonner ses mouvements de mieux en mieux. Je vous renvoie, pardon, sur ce sujet à l'épisode sur les fonctions exécutives. La manière d'avancer sur son projet moteur, c'est voir si les résultats sont à la hauteur de ce qu'il voulait réussir. Si au début, il va trop vite sur le toboggan et qu'il arrive sur les fesses au lieu d'arriver sur les pieds, eh bien peut-être que la prochaine fois, bah, il changera de placement ou il ne se donnera pas d'élan. Il va ajuster au fur et à mesure. Nous, on est là en feedback, on est là pour verbaliser, on est là pour expliciter pourquoi il y a eu ces conséquences-là et éventuellement, s'il veut changer les conséquences, il pourra revenir à l'observation des causes initiales. Donc ça peut être aussi une partie d'écoute empathique. Si votre enfant est tombé, de lui dire bah, « Comment ça s'est passé pour toi? Raconte-moi. Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux t'aider ?» Donc ça peut être une démarche, mais la plupart du temps, l'enfant il se dit « J'essaye, ça marche pas, je réessaye, ça marche pas, je réessaye. Ah, cette fois-ci, ça marche. » Ils ont ce côté explorateur, scientifique, découverte qui les emmène à chercher un mode de fonctionnement jusqu'à la réussite. Et c'est parfois nous qui cassons un peu leur cheminement intérieur parce que nous, on a un horaire à tenir ou nous, c'est l'heure de la cantine ou c'est l'heure de la récréation. Donc parfois, on coupe l'enfant dans son élan. Donc on n'a pas à nous en vouloir hein, de couper l'enfant dans son élan. Mais parfois, il n'est pas allé au bout de son exploration motrice. Puis parfois, ce n'est pas non plus le bon élément moteur. Hein, quand il a décidé de jouer avec la casserole de pâte que vous aviez laissée sur la table, parce que c'est très amusant au niveau sensorimoteur, mais lancer les pâtes dans le salon, c'est peut-être pas l'activité motrice que vous aviez rêvé. Dans ce cas-là, ça peut être l'occasion de dire « Viens, on prend ton ballon et on va au parc, là tu pourras lancer ton ballon. » Mais ce besoin d'avoir des effets et des conséquences de son corps, elle est vraiment naturelle. Si on prive l'enfant de séances de motricité, c'est vraiment comme si on le punissait d'être un enfant. Donc je vous invite à moduler les restrictions, notamment en classe, parce que parfois quand on entend que certains enfants sont privés de sport ou privés de récré, alors que justement la récréation c'est le moment où on court, où on lance, où on fait du vélo, où on se défie, où on fait la course, c'est pas le bon moment pour priver l'enfant justement d'une manière de se défouler, de s'exprimer d'une manière différente par le corps. Donc c'est quelque chose à envisager, que priver l'enfant de mouvement est une punition très difficile par rapport à sa maturité, par rapport à son développement intérieur. Je me suis éloignée complètement du sujet initial, excusez-moi. Donc, je reprends sur nos enjeux à la maternelle. C'est vraiment de nous placer en référent du matériel, au référent de la sécurité. On va être là pour proposer un feedback si le matériel n'est pas utilisé comme on le voudrait, pour lui représenter le matériel de façon différente. On va aussi accompagner sa prise de risque. Il peut y avoir des nouvelles idées qui apparaissent sur un matériel qu'on a installé même au parc. Hein, si l'enfant veut s'approprier le matériel du parc et qu'il n'a pas l'âge qui est écrit sur la pancarte, c'est pas forcément si grave que ça, mais on va du coup être là en relais, en renfort, parce que peut-être que ça glisse plus, peut-être que sa main est trop petite pour tenir le barreau de l'échelle ou la corde. Donc on va être là en sécurité. Nous, on peut là aussi valoriser toute la fierté qu'il peut ressentir à réussir. On va stimuler ses essais, on va stimuler ses résultats. Et on peut éventuellement, si on voit qu'il n'est pas content de lui, parce que ça peut arriver des enfants qui s'énervent à ne pas réussir, lui dire, écoute, on pourra revenir essayer, mais aujourd'hui, là, c'est peut-être plus la peine de continuer. Parce qu'il y a un moment où le corps est fatigué aussi. Je me souviens de ma grande, la première fois qu'on était allé faire du roller, elle était super motivée, le premier quart d'heure, tout se passe bien, et puis elle fait sa première chute, et là, elle commence à se décourager, elle fait sa deuxième chute, sa troisième chute, et là, elle était tellement énervée que c'était plus la peine de continuer la séance de roller, parce qu'elle en faisait un enjeu, elle en faisait une motivation de revanche, hein, de rébellion, et je lui ai dit, on réessayera demain, mais là, aujourd'hui, t'es plus en état de faire du roller, parce que t'es en train d'être trop énervée. Donc, ça peut appeler une frustration et une impuissance, parce que l'enfant n'est pas encore en complète maîtrise de son corps, et donc il arrive régulièrement en maternelle qu'il y a un enfant qui soit fâché de ne pas réussir, qui soit fâché de ne pas y arriver. En plus, il voit les autres autour de lui réussir, donc ça peut l'énerver d'autant plus parce qu'il trouve ça injuste que les autres y arrivent et pas lui. Donc proposons à l'enfant de réessayer une autre fois, de réessayer un autre moment, peut-être de réessayer quand il aura mieux dormi ou mieux mangé, ce sont des pistes aussi à explorer, mais de se voir sans comparer les résultats entre les frères et sœurs, sans comparer les résultats entre les enfants, parce que sur un même parcours moteur, aucun enfant n'aura exactement les mêmes résultats et les mêmes compétences. J'avais envie aussi d'apporter la petite notion que quand on donne à l'enfant des clés sur la connaissance de son corps, il peut aussi faire le lien avec ce qu'il ressent, ce qu'il réfléchit et ce qu'il comprend aussi des autres. Et cette notion du corps, on en avait beaucoup parlé dans l'épisode 20, donc je ne vais pas revenir sur cette notion du corps, mais juste de se dire « mon corps est capable de » et je peux aussi m'accorder le « j'ai pas envie que mon corps fasse ça aujourd'hui ». Donc d'écouter aussi ses compétences intérieures en se disant « si je suis trop fatiguée, je ne vais pas avoir envie de faire de l'escalade aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'atelier lancé ou roulade, mais pas escalade. » Donc d'écouter la dose d'énergie qu'a chaque enfant, chaque élève, ou même au parc, si vous avez plusieurs enfants qui jouent et qu'à un moment, il y a un enfant qui dit « j'ai plus envie de jouer », eh bien, l'écouter dans ce sens où il a fait une petite introspection, il s'est dit « j'ai assez donné d'énergie au parc », peut-être lui proposer un livre ou un puzzle ou un jouet, en attendant que les autres aient fini de décharger et de se défouler. Mais on ne peut pas uniformiser dans une classe ou à la maison le besoin moteur d'un enfant par rapport à un autre. Ils ont une carte différente, ils ont un logiciel différent. Chaque enfant a des besoins moteurs qui lui sont propres. Et si on l'autonomise, et si on lui permet de se relier à son envie de bouger ou son envie de se reposer, ça lui permet une certaine autonomie par rapport à lui-même, hein, bien entendu au niveau de ses besoins plus tard, de ses émotions plus tard, et aussi dans sa façon de le verbaliser. on va lui autoriser à ressentir de la fatigue, on va légitimer son besoin de continuer ou de s'arrêter. Donc à la maison, je vous propose d'avoir un peu de matériel diversifié, d'avoir peut-être des ballons, des supports de vélo, de proposer aussi d'aller dans un milieu inédit. Donc si vous avez une piscine à côté de chez vous ou si vous habitez à côté des stations de ski, d'essayer une activité motrice différente, peut-être en vacances d'essayer l'acrobranche, le mur d'escalade, de faire des tout petits défis sur la puissance personnelle, peut-être avec le cousin qui a le même âge, en disant « Ah, vous voulez essayer de faire du vélo pendant 40 minutes je ne sais pas si votre corps il va tenir 40 minutes, c'est beaucoup. » De se lancer un petit défi, vous voyez, en fonction de l'âge de l'enfant, parce que aller en promenade pendant 40 minutes, bah, au bout des 40 minutes, il faut prévoir le pique-nique, le ravitaillement, la bouteille d'eau, parce qu'il dépasse parfois l'émotion du nouveau projet, alors que le corps va encaisser cette fatigue, cet effort, cette sueur, cette transpiration. Donc nous, on est l'adulte, on va nous prévoir quels seront les effets de toutes ces activités motrices sur nos petits, sur nos moyens ou sur nos grands. Donc utilisons leur motivation comme vraiment support, comme déclencheur d'activité. Je propose à tout le monde de faire une activité de ce genre par week-end. Donc vraiment de prendre un petit équil sportif pour que les enfants puissent dépenser de l'énergie, des calories et puis même se confronter à leur maîtrise et leur réussite musculaire. Il y a une notion d'effort que vous pouvez des fois verbaliser quand il y a un champion qui l'apprécie, votre enfant, ou quand il y a la saison de basket ou de foot ou de Formule 1 ou de Jeux Olympiques ou même le spectacle de danse, de dire ben, c'est des efforts de réussir tout ça. Il y a eu beaucoup d'entraînement, ils n'ont pas réussi du premier coup. Il y a eu plusieurs échecs, il y a eu plusieurs erreurs, il y a eu plusieurs moments où ils se sont découragés, mais à la fin, quand le champion y arrive, là évidemment il y a la joie, il y a le contentement et l'émotion, mais tout ça n'a pas été un long fleuve tranquille et ça peut être intéressant d'expliquer ça aux enfants, notamment ceux qui s'énervaient tout à l'heure sur le parcours en disant « j'y arrive pas, je suis nul, je vaux rien », parce que quand on leur montre qu'un champion dans les paillettes et dans les flashs a aussi raté, a aussi échoué et a eu sa courbe de progression irrégulière comme tout champion, ça permet à l'enfant de déculpabiliser, de se projeter en disant bah, « si je rate aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je suis nulle, ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, mon corps, il n'était pas au taquet, aujourd'hui, mon corps, il n'avait pas toutes les capacités et je réessaierai demain, peut-être que je m'échaufferai plus ou je mangerai mieux ou j'aurai mieux dormi. » Donc de voir ça comme un système de facteurs différents, tout n'est pas explicable, tout n'est pas verbalisable, mais ça donne quand même des informations à l'enfant qui se dit « on ne peut pas être tout le temps performant, on ne peut pas être tout le temps dans la réussite, mais si on veut atteindre la réussite, c'est quand même en continuant l'entraînement, en continuant l'endurance. » Et on a souvent cette question-là aussi en début d'année sur le nombre de loisirs et d'activités pour inscrire nos enfants en périscolaire. Quand on met plusieurs activités dans la semaine, c'est riche au niveau moteur, mais ça peut être très fatigant en fait d'une séance sur l'autre. Si par exemple votre enfant fait du hockey le mardi et le vendredi va à la piscine, bah, est-ce que la fatigue du mardi est bien récupérée pour la piscine du vendredi? Est-ce que la séance du sport du collège tombe pas aussi ce jour-là? Et auquel cas il enchaîne les activités sportives. Donc il y a un équilibre à trouver avec votre enfant pour qu'au fil de la semaine, il y ait des temps de récupération, des temps de repos, des temps où le corps se régénère en quelque sorte. Et puis, je voulais aussi vous donner la petite notion aussi de prévention par rapport au corps. Ça veut dire que les enfants ne sont pas toujours conscients des distances, des dangers et des risques. Ils peuvent sauter d'un endroit dangereux, ils peuvent essayer de traverser un endroit dangereux. Donc la notion de prévention, elle arrive quand même assez tôt à la maternelle. On a eu plusieurs fois des intervenants extérieurs qui nous prêtaient des illustrations sur les dangers de chute, sur les dangers notamment de risque comme ça, parce que la prise de risque, c'est réel. Un enfant n'a pas toujours conscience des conséquences. Donc prenez soin quand vous faites une activité motrice de bien poser le cadre sécurisé sur quand tu lances là ta fléchette, il faut quand même vérifier avant que personne ne passe, que c'est une zone protégée. Donc les consignes de sécurité que tout sportif met en place avant une activité, prenez l'habitude de les expliquer à chaque fois aux enfants, que ce soit dans le parc avec le ballon, vous pouvez dire bah, tu tires par là parce que de ce côté-là, il y a les bébés qui jouent dans le sable. Donc de donner des consignes très précises d'utilisation du matériel, d'utilisation des jeux peut-être, en disant ce toboggan-là, il est vraiment trop grand, donc je ne veux pas que tu ailles sur celui-là. Par contre, tu peux essayer les quatre endroits où il y a d'autres activités. Donc posez-lui un cadre parce que sa conscience des dangers n'est pas encore absolue et ça lui permet aussi de voir à quel point vous faites attention au niveau physique et corporel à son ressenti. Et puis aussi, ça lui permet de comprendre la prévention des risques domestiques, des risques aussi liés à l'effet des autres sur son propre corps. Donc tout ça, vous allez retrouver des pistes aussi dans l'épisode 20. La motricité, c'est vraiment un grand sujet. Donc quel que soit l'âge de votre enfant, vous pouvez envisager de trouver un livre ou une référente ou un ouvrage avec une psychomotricienne. Peut-être aussi dans votre ville, il y a des accueils-jeux avec du matériel pour les tout-petits, pour qu'ils puissent faire de la baby-gym. Ce sont des activités qui se développent vraiment beaucoup. Et que vous fassiez l'instruction en famille ou que votre enfant aille à l'école, vérifiez que dans la semaine, sur les 7 jours, il y ait au moins 5 jours où il puisse s'exprimer dans son corps, aller au parc ou aller à la piscine ou jouer avec un ballon, qui puisse décharger aussi ses émotions, se défouler, se ressourcer par son propre corps. Je vous remercie pour votre écoute. Cet épisode était un petit peu long aussi également. J'avais beaucoup de choses à dire sur la motricité parce que 20 ans de séance de motricité, ça ne s'oublie pas comme ça. Prenez bien soin de vous et de vos petits loups. Allez jouer au parc, escalader, lancer, ramper, sauter, faites du vélo. Amusez-vous bien. On se rejoint sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez pour me poser des questions, Instagram, Facebook ou Clubhouse. Et puis n'hésitez pas, s'il vous plaît, à laisser des petites étoiles sur le podcast si ça vous dit, si ça vous aide et à participer aux offres en cours. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.